Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse du lundi 22 février 2021. Voici les titres de l'actualité. Nous commencerons cette revue de presse avec la santé. Voilà, comment définir ce bien qu'est la santé ? Est-ce un bien suprême ? Je vous lirai dans un premier temps l'analyse de Martin Stephens, auteur et professeur de philosophie, ainsi que le témoignage de Tugdual Derville, fondateur de l'association À bras ouverts et délégué général d'Alliance Vita. Ces analyses figurent dans le dossier consacré à la santé, paru dans le magazine Chemin d'éternité numéro 302. Nous continuerons ensuite avec les 25 ans de grâce de la prière des mères et des fruits que ça a porté. Famille chrétienne, numéro 2249, a recueilli des témoignages de confiance et d'abandon face à ce défi immense qu'est l'éducation. Et enfin, en culture chrétienne, je vous proposerai le dernier livre de Michel Coll qui vient de paraître aux éditions Salvator, Retrouver l'enthousiasme. Nous commençons cette revue de presse avec la grande question de la santé, une question qui est au cœur de nos vies car elle est notre vie même. Donc je vais d'abord vous lire l'analyse de Martin Stephens, donc auteur et professeur de philosophie, entretien qu'il a donné au magazine Chemin d'éternité numéro 302. Et j'enchaînerai ensuite avec l'analyse de Tugdual Derville. Pour Martin Stephens, comment définir ce bien qu'est la santé ? Il nous dit « C'est un bien physique puisque ce n'est ni une grâce ni une vertu. On peut être un grand saint en petite forme. » Un philosophe de la médecine, Georges Canguilhem, a proposé de penser la santé à partir de la maladie, et non seulement comme ce que la maladie vient interrompre. Car d'abord, la maladie est un signe de santé. Le corps fait une maladie pour se guérir. Et dans le mot « guérir », il y a « guerre ». Par exemple, le corps fiévreux est en lutte, il ne se laisse pas mourir. Mieux, il va même chercher au cœur de la maladie une façon nouvelle de dessiner le monde qui l'entoure. La santé, ce n'est pas de ne jamais tomber malade. Ce n'est même pas seulement de guérir à tout prix, car souvent, même après la guérison, notre vie demeure changée par l'épreuve physique qu'elle a traversée. La santé, c'est à l'intérieur des épreuves et à partir d'elles, inventer une façon nouvelle de déployer sa vie. Alors, est-ce que la santé est le bien suprême ? Réponse de Martin Stephens. Si la santé, ce n'est pas la vie qui s'épargne toutes sortes d'épreuves, mais qui parvient à s'inventer à partir d'elles, alors passer tout son temps à protéger sa santé, c'est en faire toute une maladie. Ainsi, la perspective de lui préférer un bien supérieur est-elle très saine ? En ce moment, on nous dit que la meilleure manière d'aimer les plus fragiles, c'est de ne plus les visiter. C'est une recommandation de l'État, sur l'une des nombreuses affichettes que l'on peut voir dans les abribus. Je me lave les mains, je ne rends pas visite aux malades. On voit où cela mène, à l'abandon des malades. On les réduit à leur propre survie. On enferme les plus fragiles dans leur fragilité, souvent à leur corps défendant. Un ami handicapé me disait en avoir marre de servir de prétexte à cette horrible distanciation sociale qui s'institue partout. Faut-il alors se souhaiter la santé ou le salut ? Les deux, car ils n'entrent pas en concurrence. Mais on ne se souhaite la santé qu'une fois par an, ou en trinquant à l'apéro du samedi soir, alors qu'on se dit « salut » des dizaines de fois par jour. C'est sans doute que le salut est un bien plus fragile encore que la santé. La preuve, on peut entrer en désespérance même en étant en bonne santé. Pire, l'excellente santé d'un homme qui s'est éloigné de Dieu lui permettra de faire plus de mal encore. Le Christ nous dit dans son évangile « Qui veut sauver sa vie la perdra ». On peut mépriser son corps pourvu que ce soit par distraction parce que la sainteté passe devant. C'est ce que font tous les parents quand ils accueillent un enfant. Ils dorment peu, mangent plus vite, toute chose qui, en réalité, va dans le sens de la vie. C'est pourquoi, dans une dictature du bien-être. Oui, une dictature du bien-être, à savoir ne pas être gros, faire du sport, résister à toutes les marques du vieillissement. Aucun enfant n'est plus le bienvenu. Il déforme le corps de la femme et sera lui-même peut-être malade. Ainsi, pour qu'ils ne souffrent pas, on ne met plus les enfants au monde. Pour leur bien-être, on leur refuse d'être. Alors oui, écoutons cette sentence du Christ, qu'on retrouve 6 fois dans les évangiles, comme si le cœur du message de Jésus était là. Mourez à vous-même, à vos peurs, afin de vous donner plus librement et de porter du fruit. Si les chrétiens ont tant inquiété les dictateurs, c'est que, étant morts par leur baptême, on ne pouvait plus leur faire de chantage à la survie. La vraie liberté suppose de n'avoir plus peur de mourir. Je répète, la vraie liberté suppose de n'avoir plus peur de mourir. Non pas parce qu'on est bravache, mais parce que le Christ nous a promis qu'aucun oiseau du ciel ne tombait sans que son Père ne soit avec lui. C'était dans un premier temps l'analyse de Martin Stephens. J'enchaîne maintenant avec le témoignage de Tugdual Derville, donc une personne dont vous avez entendu parler à plusieurs reprises, fondateur de l'association À Bras Ouverts et délégué général d'Alliance Vita. Comment Tugdual Derville reçoit le fameux vœu de la santé? Voici ce qu'il nous répond. Faudrait-il attendre la maladie pour mesurer le prix d'une bonne santé? Ceux qui ont eu l'expérience de la douleur intense savent qu'elle rend difficile l'accès à la vie intérieure. Elle entrave l'action, la relation, la pensée et même la prière. Un vœu de bonne santé peut s'entendre comme une bénédiction intégrale, incluant la santé du corps, du cœur et de l'âme. Alors devons-nous veiller sur notre santé? Est-ce un devoir? Et jusqu'à quel prix? Réponse de Tugdual Derville. Oui, je pense que, sans l'idolâtrer, prendre soin de sa santé est un service à rendre à l'ensemble de la société, notamment à ceux qui nous aiment. J'ai en tête quelques catastrophes familiales consécutives aux choix personnels de personnes qui, se découvrant malades, ont refusé de se soigner à cause d'un déni, d'une peur, voire d'un sentiment de toute-puissance individualiste. Ma santé ne concerne pas seulement mes proches. Le coût induit par la négligence en ce domaine pèse sur toute la société. Sommeil, repos, activité physique, nutrition équilibrée, examen de prévention lié à notre âge, tout cela relève d'un devoir. La santé n'a pas de prix, même si elle a un coût. Certes, il faut savoir renoncer à des soins inutiles ou disproportionnés. Saint Jean-Paul II a su le faire à l'approche de la mort. Refuser un traitement dont on juge le coût exorbitant peut même être légitime, y compris par altruisme. Il ne s'agit pas d'un suicide. Mais plutôt que de déterminer des limites toujours mouvantes selon la société et l'état de la technique, je préfère établir une hiérarchie. La santé de l'âme est première. Une civilisation se juge à la façon dont elle reconnaît la dignité de ses membres les plus fragiles. C'est cela, faire preuve d'humanité. Dans les moments d'épreuve, de désespoir, de maladie, tout être humain a besoin que soit posé sur lui un regard qui lui confirme sa dignité. Sinon, il se sent inutile, en état de déchéance, voire indigne de vivre. Quelle place laisse aux plus fragiles une société qui valorise tant la santé et la jeunesse? Réponse de Tugdual Derville. Il me semble que notre société est paradoxale. La jeunesse est certes valorisée et l'autonomie idolâtrée, mais les générations nouvelles ne sont pas tellement favorisées. Même si les personnes âgées se retrouvent trop souvent dans des formes de ghetto, la société continue d'être magnifiquement inventive pour répondre à leurs besoins. Les initiatives sont à la fois publiques, institutionnelles et privées. En toile de fond, ce qui ruine nos liens sociaux, c'est l'individualisme à tous les âges de la vie. Le chacun pour soi conduit à rendre plus difficiles les moments de vulnérabilité que nous connaissons tous un jour ou l'autre, quel que soit le degré. La vulnérabilité, valeur d'humanité, trouve sa manifestation ultime dans la mort corporelle, qui peut arriver à tout moment. L'année 2020 nous l'a rappelé, nous sommes tous mortels. Entretenir la conscience de cette perspective commune ouvre à la fraternité universelle. Dernière question, Quel danger dans les promesses de santé éternelle et d'immortalité? Et comment lutter contre le transhumanisme? Tugdual Derville nous répond. À une culture de toute puissance vouée à l'échec, il faut répondre par la culture de la vulnérabilité. Reconnaître cette dernière comme source de vie, de lien, de solidarité et d'amour. Plus concrètement, nous pouvons toujours nous interroger sur notre usage de la technique. En quoi en suis-je aliéné par elle, coupé des autres et de Dieu? En quoi m'est-elle utile pour croître, me relier, m'élever en humanité? Il nous faut une libération si nous en sommes esclaves. Ultimement, seul l'accueil de la transcendance préservera l'humanité. Elle nous différencie des animaux, mais aussi des machines avec lesquelles nous confondent les penseurs transhumanistes. Ils cherchent l'explication de la vie dans la matière coupée de toute idée de Dieu. C'est la raison close obscurantiste que Benoît XVI oppose à la raison ouverte. Nous, chrétiens, savons que celui qui nous a créés à son image est aussi celui qui nous aime et nous inspire. Bien plus enviable que la pseudo-immortalité transhumaniste. Son dessein sur nous est la bienheureuse vie éternelle qui a déjà commencé. Merci Seigneur. C'était l'entretien et le témoignage de Tugdual Derville, précédé de celui de Martin Stephens, deux témoignages que vous pourrez retrouver dans le magazine Chemin d'éternité numéro 302. Nous nous tournons maintenant vers les mères de famille qui fêtent les 25 ans de prière. Donc la prière des mères, si vous voulez, existe depuis 25 ans et il s'agit bien de 25 ans de grâce. Confiance et abandon résument la spiritualité de la prière des mères. Le mouvement précieux appuie pour les mamans, fête son jubilé. Voici des témoignages que Famille Chrétienne a recueillis. Des témoignages que vous pourrez retrouver donc dans le numéro 2249. Une croix, une Bible, la lumière d'une bougie. À genoux, une mère égrène le prénom de ses enfants et celui de son mari. Écrits sur des petits ronds de papier, ils sont déposés dans un panier. Par ce geste, elle remet sa famille entre les mains du Seigneur, lieu sûr pour y laisser nos enfants, lit-on dans le livret de la prière des mères. Chaque lundi matin, dans cette maison de Nantes, ce groupe s'unit à un mouvement de prière désormais mondial, rassemblant mères et grand-mères, catholiques mais aussi protestantes. Toutes se retrouvent une fois par semaine pour prier à l'intention de leurs enfants et pour la conversion du monde. Chaque réunion vit le même rituel, détaillé dans le livret. Louange, lecture de la parole, prière à l'Esprit-Saint. Sybille, la cinquantaine, responsable du mouvement en Côte d'Armor et en Ille-et-Vilaine, y participe depuis 15 ans. Elle nous dit « C'est comme si l'on entrait de plus en plus en profondeur dans l'abandon, dans le lâcher-prise. Le Seigneur connaît nos enfants mieux que nous-mêmes. Il sait ce qui est bon pour eux. Il nous conduit à partir du moment où nous le laissons agir. » La prière des mères, fête son jubilé. Voilà 25 ans qu'elle essaime jusqu'à toucher aujourd'hui plus de 120 pays. C'est en novembre 1995 que Veronica Williams, une jeune grand-mère anglaise, en reçoit l'intuition. À l'unisson avec sa belle-sœur, le cœur meurtri face aux dangers menaçant la jeunesse, drogue, pornographie, violence, elle sent un appel fort à prier. Dans les moindres détails, elle va demander au Seigneur de leur montrer la manière de s'y prendre, raconte Anne-Céline Asselin, actuelle coordinatrice du mouvement pour la France. Un mois après, un petit groupe de grand-mères se réunit et laisse monter une prière spontanée d'abandon et de confiance. Plus tard, elle écrit un livret pour répondre à la demande qui afflue. Anne-Céline ajoute « Elle a vécu un vrai cheminement pour apprendre à se laisser conduire par l'Esprit-Saint. Le mouvement de la prière des mères est un cadeau du ciel. » Ces derniers mois, malgré la situation sanitaire, la plupart des groupes ont maintenu leurs prières, plutôt dans les églises ou en visio qu'à domicile. L'engagement à une fidélité hebdomadaire, propre au mouvement, a d'abord effrayé Emmanuel, qui vit dans la région d'Angers. Puis j'ai compris que la rencontre avec les autres mères était un trésor d'amitié, de confiance et de bienveillance, confie-t-elle. Mieux encore, je fais l'expérience de la puissance de la louange et de la confiance dans l'action du Seigneur. Dans le Morbihan, Myriam a découvert, il y a 3 ans, ses prières. Elle m'aide à laisser entrer Jésus dans ma semaine, Je prie particulièrement pour que chacun de mes enfants ait la grâce de choisir Jésus pour sa vie. Quelles grâces peuvent naître de ces prières dites en cœur? Certaines mères citent volontiers le « demandez et vous recevrez de Jésus ». Santé, scolarité, foi des enfants, soucis de travail ou de logement, discorde familiale, des intentions de prière notées chaque semaine. Elles concernent aussi bien leur propre famille que d'autres foyers éprouvés. Anne-Céline témoigne. Nous recevons paix, repos et consolation, particulièrement quand les mères portent de lourds fardeaux. Nous apprenons à faire confiance, persuadés que le Seigneur aime nos enfants infiniment plus que nous. Au fil du livret se dessine une spiritualité de la confiance et de l'abandon. Nous avons perdu trop de temps à nous inquiéter et à essayer de tout régler par nous-mêmes, ou encore à ne rien faire du tout. Sybille cite d'autres fruits spirituels, tels la paix, la joie, la patience, la conviction de ne pas être seule face à ce défi immense de l'éducation. Les semaines passant font grandir affection et compassion chez ces dames, d'autant plus que la confidentialité figure parmi les règles de ces échanges. Nous nous appuyons les unes sur les autres dans la communion des saints, témoigne Thérèse, mère de 5 garçons. Une vraie amitié se crée entre nous. Sœurs en Christ, nous prions les unes pour les autres. Nous portons les mêmes intentions finalement. Les mères font l'expérience de la puissance de la prière. D'abord pour elles-mêmes, car elles s'engagent sur un chemin de croissance spirituelle. En examinant ces 14 années d'engagement, Patricia relève « C'est avec persévérance que nous avançons ensemble chaque semaine. » Valérie, mère de 3 jeunes enfants, récemment veuve, témoigne également « Lorsque nous avons appris la maladie qui frappait Luc, mon mari, mes sœurs de la prière des mères ont immédiatement formé comme un bouclier autour de notre famille, afin que nous puissions accueillir cette épreuve dans la divine volonté. Sans doute en partie grâce à elle, mon mari a vécu sa maladie et son départ au ciel en union avec son Sauveur. » Une phrase entoure le logo du mouvement. L'amour des mamans change le monde. Dieu donne tant à celle qui lui donne du temps, sourit Anne-Lys, qui vit à Sainte-Anne-d'Auray avec ses 6 enfants. Quand Dieu voit une maman qui prend du temps pour lui confier ses enfants, il ne peut que les bénir, les combler de bien. Les regards se tournent instinctivement vers la Vierge Marie et sa sainte maternité. Thérèse nous dit encore « La Sainte Vierge a vécu beaucoup d'épreuves. Elle sait ce qu'est un cœur de maman qui se soucie de ses enfants. » Vous pourrez retrouver cet article dans Famille chrétienne, numéro 2249, intitulé « Prière des mères, 25 ans de grâce ». Je vous retrouve après une courte pause musicale pour la culture chrétienne. À tout de suite.
Vitalis peccata mundi, miserere nobis.
Voilà, chers amis auditeurs, nous retrouvons tout de suite Claire pour la suite de ces revues de presse.
Nous passons maintenant à la culture chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose un livre qui vient de paraître aux éditions Salvator, à savoir donc le dernier livre de Michel Coll, intitulé « Retrouver l'enthousiasme ». Je trouvais ça intéressant parce que comme nous avons parlé de la santé au début de la revue de presse, vous allez voir que l'auteur nous fait comprendre que sans l'enthousiasme, notre santé peut en prendre un coup. Présentation de l'ouvrage. Violence, catastrophe, deuil. Peut-on résister aux sirènes du pessimisme quand l'humanité semble partir à volo? Comment faire face au sentiment de désespoir qu'entraînent les malheurs du monde qui viennent frapper jusque sous nos toits? Pour l'auteur, l'enthousiasme chrétien est un antidote au poison du découragement et du scepticisme. Se ressourçant au feu de Dieu qui anima des témoins d'hier et aujourd'hui, Michel Kohl propose un véritable itinéraire spirituel pour traverser ce temps de crise en gardant sa lampe allumée. Son but, retrouver l'enthousiasme des premiers apôtres de l'Évangile. Donc, il s'agit du livre de Michel Kohl, Retrouver l'enthousiasme, qui vient de paraître aux éditions Salvator. Nous passons maintenant à la conclusion de cette revue de presse. Je termine cette revue de presse du 22 février 2021 en vous redonnant les titres de l'actualité. Nous avons commencé par la santé. Donc, comment définir ce bien qu'est la santé? Est-ce un bien? Faut-il en faire un bien suprême? Je vous ai lu deux réflexions. Donc, d'abord de Martin Stephens, auteur et professeur de philosophie, puis de Tuc Dualderville, fondateur de l'association À Bras Ouverts et délégué général d'Alliance Vita. Deux réflexions que vous pourrez retrouver dans le magazine Chemin d'éternité numéro 302. Nous avons ensuite parlé des 25 ans de grâce de la prière des mères. Je vous ai lu des témoignages que Famille Chrétienne, numéro 2249, a recueilli, des témoignages de confiance et d'abandon face à ce défi immense qu'est l'éducation de nos enfants. Et en culture chrétienne, je viens de vous parler du dernier livre de Michel Kohl qui vient de paraître aux éditions Salvator, Retrouver l'enthousiasme. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve avec joie lundi prochain.